Apocalypse, chapitre 3. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Sardes est située au sud-est de Thyatire, à environ 50 kilomètres. S'il fallait faire une comparaison, c'est un petit peu comme les assemblées répandues sur toute la côte depuis Marseille jusqu'à Menton. Voyez, la distance entre les unes et les autres se situe à peu près à 50 kilomètres, un peu plus, un peu moins. Le Seigneur se présente à cette église comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Les sept esprits de Dieu nous parlent de la plénitude du Saint-Esprit, de la toute-puissance de Dieu. Les sept étoiles nous parlent de ce que le Seigneur est le maître de cette étoile, c'est-à-dire de tous les serviteurs. Merci Seigneur de ce qu'il en est ainsi. Il s'approche avec son omnipotence et son omniscience, c'est-à-dire avec sa toute-puissance et sa connaissance de toutes choses. Il dit, « Je connais tes œuvres, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Et il ajoute, « Je sais, tu passes pour être vivant et tu es mort. » Il sait ce que cette église vaut devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas toujours la même chose. Remarquons que les églises précédentes que nous avons vues ensemble avaient toutes des luttes. L'église d'Éphèse avait à lutter contre les faux apôtres et les Nicolaïtes. L'église de Smyrne avait à lutter contre ceux de la synagogue de Satan, la communauté, l'assemblée de Satan. L'église de Pergame se trouvait là où était le trône de Satan, et il y avait aussi là des Nicolaïtes. L'église de Thyatire avait en son sein Isabelle, Jézabel, la prophétesse, idolâtre et infidèle. Toutes ces églises, donc, avaient des luttes au dehors et au dedans, ou alors les deux à la fois, et au dehors et au dedans. L'église de Sardes qui nous occupe aujourd'hui est laissée tranquille par Satan. La raison, c'est qu'elle est morte, et Satan le sait bien. Cependant, elle passe pour être vivante. Satan ainsi laisse l'illusion à cette Église qu'elle est vivante. Cette Église de Sardes ressemble à certaines personnes souffrantes tout en ayant une bonne mine. On leur achèterait la santé. C'est le monde et non le Seigneur qui disait qu'elle était vivante. Littéralement, il est dit, tu as non que tu vis. C'est-à-dire, tu as la réputation d'être vivante. Elle était vivante aux yeux et à l'appréciation des hommes, mais non aux yeux de Dieu. Or, c'est celle de Dieu qui compte. Voici l'enseignement du Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 26, le Seigneur dit, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » À ses frères, le Seigneur Jésus disait, Jean 7, 7, « Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » À ses apôtres, il disait, Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Prenons donc bien garde, lorsque le monde apporte son appréciation, ce n'est pas cela qui compte, mais c'est l'appréciation de Dieu. Celui qui a laissé cet esprit de Dieu connaît et sait, et son appréciation est juste et vraie. En effet, le Seigneur dit, « Tu es morte, tu n'es pas vivante. » Les hommes regardent l'extérieur du tombeau, blanchi, orné. Jésus dévoile l'intérieur, rempli d'ossements et d'impuretés. Pour le Seigneur, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est la réalité. Voici quelques éléments de la vie spirituelle, de la vraie vie spirituelle que l'Église doit avoir, que nous devons chacun avoir. Premièrement, la foi. Vous me direz, mais nous avons la foi. Oui, frères et sœurs, il y a cependant la foi vivante et il y a aussi la foi morte. Dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 26, il est dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » De quelle qualité est votre foi, vivante ou morte? Des œuvres, ça ne signifie pas toujours des œuvres de charité, mais ça signifie également un certain comportement qui, justement, glorifie le Seigneur. Pour être vivant, il faut posséder aussi l'amour, évidemment. Romains 12, verset 10, voici ce qui est dit. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » L'amour factice manque précisément d'affection. Il n'est qu'en parole, mais l'amour véritable est plein d'affection. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Dans la vraie vie spirituelle, il doit y avoir également la joie. Il y a d'autres éléments. Pourquoi la joie? Parce que Sardes signifie chant de joie. Alors parlons de la joie. Il y a la joie du monde, pernicieuse. Paul parle à Timothée de certaines veuves, et il dit, 1 Timothée 5, 6, « Mais celle qui vit dans les plaisirs sous-entendu du monde, est morte aux yeux de Dieu, quoique vivante. Mais il n'est pas seulement question des veuves, il est question de toute créature, de tout croyant, hein, qui, tout en prétendant être croyant, vit des plaisirs du monde. Nous trouvons dans Exode 18-19, Israël, le peuple d'Israël dans la joie. Le peuple d'Israël qui chante. En descendant de la montagne où Moïse et Josué étaient montés pour rencontrer l'Éternel, Josué dit à Moïse, « Il y a des cris de guerre dans le camp. » Et Moïse lui répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit, quoi donc ? Le veau d'or et les danses. C'était la joie des idolâtres. Ce n'est pas cette joie-là que le Seigneur veut. Et ce jour-là, périt 3000 hommes frappés par l'Éternel. C'est à l'église de Philippe, en Macédoine, que Paul parle le plus de joie spirituelle, parce que cette église est attristée par l'emprisonnement de Paul. Pour cela, il leur montre premièrement sa joie, malgré son emprisonnement. Quelle haute spiritualité! Et deuxièmement, il les invite à plusieurs reprises à se réjouir. Vous lirez l'épître aux Philippiens et avec un crayon vous soulignez tous les passages où il parle de joie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et voici cependant un extrait, Philippiens 2, 17-18. Et même, dit-il, si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je m'en réjouis avec vous tous, vous aussi réjouissez-vous avec vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Ah, cet excellent apôtre Paul, il accepterait de servir de libation, de sacrifice pour la foi de ces chrétiens de Philippe, et il dit, je m'en réjouis. Il va passer probablement par le martyr et il s'en réjouit. Et vous aussi, réjouissez-vous avec moi, dit-il. Ça s'appelle la joie spirituelle. Dans 2 Corinthiens 6, 10, nous avons un résumé de cette joie. En effet, il est dit, nous sommes regardés comme attristés. C'est le monde qui nous regarde comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Encore dans Philippiens 4, 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. La joie dans le Seigneur ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une joie profonde en soi. C'est la joie spirituelle qui honore et glorifie le Seigneur. Ainsi donc, la foi vivante, l'amour véritable, la joie spirituelle sont des signes, entre autres, de la véritable vie spirituelle agréable au Seigneur. Remarquons ensemble, c'est très important, le Seigneur s'adresse à l'église de Sardes, c'est-à-dire à une église morte. Il lui parle. Il la reprend, il l'exhorte. Et ne trouvez-vous pas cela étrange? Le Seigneur parle à cette église qui est morte, ou presque, et puis il la reprend et il l'exhorte. Eh bien, la réponse, nous la savons, c'est que le prince de la vie a la faculté de parler aux morts et de se faire entendre par eux. Et voici quelque image, j'ai dit image, qui peuvent illustrer le spirituel. Le Seigneur a parlé à la fille de Jaïrus qui venait de mourir. « Jeune fille, lève-toi !» Et la fille de Jaïrus entendit la voix de Jésus et se leva. Il parle au jeune homme de Nain qu'on portait en terre. « Jeune homme, je te le dis !» Et le jeune homme a entendu la voix de Jésus et s'est levé. À Lazare de Béthanie, qui était dans le tombeau depuis 4 jours, et sa sœur disait de lui, « Il sent déjà !» Le Seigneur dit, « Lazare, sors !» Et Lazare sortit. Le Seigneur l'avait bien dit, Jean 5, 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, vivront. » Ceci, surtout, a trait au domaine spirituel, mais le Seigneur ressuscite les morts de quelque nature que ce soit. C'est pourquoi il peut parler même à une église morte de manière à la ressusciter et à se glorifier. Pour réveiller une telle église morte, le Seigneur a besoin précisément de s'approcher d'elle avec la plénitude de son esprit. C'est pourquoi il s'est révélé comme celui ayant les 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas une petite affaire de ressusciter un mort, et surtout un mort spirituel. Il s'approche avec son omnipotence, sa toute-puissance. C'est d'une résurrection que cette Église a besoin. Mais, Seigneur, cette Église pourra-t-elle revivre, se réveiller, ressusciter? Prophète Ézéchiel, chapitre 37, vous le connaissez, c'est le chapitre où le Seigneur montra au prophète dans une vallée des ossements desséchés en très grand nombre. Le Seigneur le fit passer tout autour et le prophète dit, ces ossements étaient complètement desséchés et il y en avait beaucoup. Le Seigneur, en définitive, révèle au prophète et lui dit, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Mais ces ossements, pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. J'abrège énormément. Le Seigneur lui dit, prophétise sur ces ossements. Et le prophète prophétise par l'ordre de l'Éternel sur ses ossements. Il y eut un mouvement, dit-il, ça a dû être effroyable, et tous ses os se mirent à bouger, et chaque os alla trouver sa place, puis des nerfs crurent, de la chair ensuite, puis tout cela fut couvert de peau, mais il n'y avait pas encore de vie. Et l'Éternel lui dit, prophétise, que l'Esprit vienne et entre dans ses ossements. Et l'Esprit vient, entra dans ses ossements, et après cela, ce n'était plus un tas d'ossements, mais c'était une armée de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, le Seigneur ressuscite les morts, le Seigneur ressuscite une église qui est moribonde, le Seigneur ressuscite chacune de ses créatures, lorsque même sa vie spirituelle semble à jamais évanouie, à jamais dissipée. Le Seigneur, donc, s'adressant à cette Église, lui dit, littéralement, je vous l'ai déjà mentionné, non pas « sois vigilant », mais « deviens vigilant ». Littéralement, il est dit « deviens vigilant ». C'est que probablement elle avait cessé de l'être. Frères et sœurs, lorsqu'on se convertit dans les premiers temps, on est vigilant. Puis on laisse un petit peu aller. Et petit à petit, c'est le monde qui entre en soi, hein, si ce n'est pas soi-même qui entrons dans le monde. Sois vigilant, deviens vigilant, Ou alors, cette Église n'avait pas été suffisamment vigilante. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, même si vous êtes vigilants, soyez-le encore plus, hein, car l'ennemi, comme un lion rugissant, rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. En d'autres termes, le Seigneur dit, veillez et priez, veillez sur votre regard, ne regardez rien de souillé, veillez sur vos oreilles, pour ne point consentir à entendre n'importe quoi, même pas les murmures, fermez vos oreilles, éloignez-vous, même si ça doit froisser la personne qui est en train de vous parler. Oui, faites-le. Veillez sur votre langue pour ne dire rien qui soit désobligeant. Veillez sur vos pensées, car tous les péchés commencent en pensée, puis ensuite s'achèvent. Veillez sur votre cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et tout le reste que vous connaissez. Le Seigneur, s'adressant à cette Église, dit « Affermis le reste qui est prêt de mourir. » C'était comme une maladie qui atteint les membres les uns après les autres. C'est pourquoi Hébreux 12, 12-13 dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. » La maladie spirituelle est contagieuse, et le mauvais exemple se communique plus facilement que le bon. Nous sommes responsables de nos actes, ne soyons scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, dit la parole du Seigneur. Puis le Seigneur dit à cette Église, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi, comment tu as reçu la parole. Cela veut dire qu'elle n'a pas gardé. Nous avons vu qu'il ne faut pas aller plus loin que la parole de Dieu. Je pense que vous avez retenu lorsque je vous en ai parlé. Il ne faut rien ajouter à la parole du Seigneur. Il ne faut rien retrancher à la parole du Seigneur. Il ne faut rien transformer, ni inventer, ni tordre le sens de la parole de Dieu. Je vous dirai en un mot, la doctrine évangélique n'évolue pas. C'est la tradition qui évolue, ce sont les lois qui évoluent, c'est la manière de vivre qui peut évoluer, mais la doctrine n'évolue pas. Il y a des nouveautés, faites attention frères et sœurs, des nouveautés du pays et puis des nouveautés importées de l'étranger, comme les primeurs. Faites attention, car s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de Christ. Et c'est pourquoi toute la parole de Dieu, c'est de cela que nous avons besoin, sans rien ajouter, sans rien retrancher, sans rien tordre, mais la parole de Dieu telle qu'elle est, et nous nous y tiendrons. La résurrection, le retour à la vie est possible donc par un retour à la parole de Dieu, que chacun voit, que chacun scrute son intérieur, son cœur, pour voir si sa vie est conforme à la parole de Dieu ou si sa vie est loin de satisfaire le Seigneur. Si vous vous êtes éloigné, retournez à la parole du Seigneur. Revenez à la parole du Seigneur. La résurrection spirituelle est à ce prix-là. Quand le Seigneur s'approche avec les sept esprits de Dieu d'une église morte, Il ne déclenche pas un feu d'artifice, comme certains le croient. Non. Mais il déclenche un profond regret, une conviction de péché qui provoque une profonde et réelle repentance et un retour à la fidélité, à la parole, à sa parole. Souvent, on voudrait le réveil sans ce retour à la fidélité, mais cela est impossible. Repends-toi, dit le Seigneur, afin que tu sois guéri, afin que tu vives, je dirais, afin que tu revives. Voulons-nous le réveil des âmes pour le Seigneur?
Amen.
Eh bien, le Seigneur est sage. Il ne met pas de nourrisson au milieu des morts. À une mère malade, hélas, on enlève même son enfant jusqu'elle soit rétablie. C'est vrai ou non? Eh oui. Si la vigilance est refusée, il n'y aura plus qu'à attendre et être surpris par la visitation du Seigneur qui viendra comme un voleur. Il y avait des vierges sages et des vierges folles. Celles qui ont été prudentes ont pu persévérer et à l'appel « Voici l'époux » ont répondu et sont entrées dans la salle du festin. Tandis que les vierges folles ont été surprises et leur négligence a fait qu'elles furent exclues de la fête des noces. Cependant, je termine, au milieu des morts, le Seigneur voit quelques hommes vivants. Les vrais enfants de Dieu ont une vitalité extraordinaire. J'en suis persuadé. En effet, le Seigneur dit « quelques hommes ». Littéralement, il est dit « quelques noms ». Et j'aime ça. Ça veut dire que le Seigneur connaît chacun en particulier qui marcheront, dit-il, avec moi, avec Jésus, en vêtements blancs. Et le Seigneur les déclare dignes. Dans une assemblée morte, lorsque quelques-uns marchent, et sont vivants, on les supporte mal. On les trouve étroits, on les trouve à l'esprit moyenâgeux, on les trouve mystiques. Frères et sœurs, il n'est point question d'être mystique ni moyenâgeux, mais il est question d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons, d'après sa parole, notre vie. Se maintenant dans les limites de sa parole. Concernant ces vivants, eh bien le Seigneur dit qu'ils formeront son escorte, l'escorte de Jésus, le prince de la vie. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont vivants, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, mais que de noms que Jésus a été obligé d'effacer du livre de vie. Et quels sont ces noms? Ce sont les noms des morts. Mais concernant les noms des vivants, il dit, je les confesserai devant mon Père et devant ses anges. Littéralement, il est dit, je les homologuerai. C'est un terme un petit peu juridique. Ça veut dire, j'affirmerai, je confirmerai qu'ils sont réellement vivants. Ô frères et sœurs, que nos noms soient ainsi confessés, homologués devant l'Éternel, afin que nous ne perdions pas le bénéfice du salut que le Seigneur accorde. Point final, Jésus a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es venu nous chercher, tu nous as trouvés et tu nous as transformés.